Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci parce que dans ta souveraineté, tu nous as mis, Seigneur, dans cette église pour que nous puissions te célébrer ensemble. Seigneur, nous te demandons de nous donner, vraiment, Seigneur, un cœur pour que nous puissions aussi aller plus loin avec toi. Seigneur, surtout, Seigneur, nous te demandons de nous donner un discernement pour que nous puissions vivre la parole prononcée, soit vraiment, Seigneur, une source de notre vie et pour toi et pour ta gloire. Dans le nom de Seigneur, nous te prions. Amen. Quand on ne va pas bien, on a tendance à changer son environnement pour repartir de zéro. On le fait dans l'espoir que ce changement nous apporte une solution. Par exemple, lorsque notre dessin nous déplaît, on engomme une partie ou on le recommence sur une nouvelle feuille. Lorsqu'on ne se sent pas bien avec quelqu'un de sa famille, un de ses amis ou un de ses collègues de travail, on cherche à en parler avec la personne concernée dans l'espoir d'arranger les choses. Mais nous savons très bien que ce changement extérieur ne nous donne pas un grand bonheur si notre cœur reste toujours le même. Nous affrontons souvent les mêmes problèmes. C'est notre réalité. Au moins, c'est pour moi. Ces expériences universelles nous aident en revanche à comprendre le plan rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu a lui-même renouvelé plusieurs fois les conditions extérieures de sa création. Par exemple, je vous rappelle l'histoire de la création. Après avoir a vu le péché, le premier péché d'Adam et Ève, Dieu a déjà expulsé du jardin d'Éden. Depuis ce jour-là, personne ne peut entrer dans le jardin d'Éden. Et lorsque les contemporains de Noé ont péché contre l'Éternel, Dieu a déclenché le déluge. Depuis ce jour-là, on ne voit plus les éclairs dans le ciel. Et au temps du Nimrod, beaucoup de gens ont péché contre l'Éternel en construisant la tour de Babel. Alors Seigneur, il est descendu, il a dispersé tous les êtres humains sur toute la surface. Depuis ce jour-là, personne ne peut discuter avec quelqu'un sans apprendre la langue des autres. Ainsi, Dieu a changé, renouvelé plusieurs fois la condition de vie. Ici, on peut poser la question, dans une nouvelle... Oui. Dans une nouvelle condition renouvelée et modifiée, alors les êtres humains ont-ils arrêté de pécher contre Dieu? Non. Malgré tous ces changements cosmiques, l'humanité entière a gardé le cœur endurci en désobéissant à la volonté de Dieu. Ils ne sont pas tournés vers lui. Nous avons tous toujours gardé le cœur endurci. Enfin, Dieu a annoncé le changement radical de la condition extérieure de sa création. Voici, c'est la nouvelle création. Si nous lisons Ésaïe chapitre 65, il est écrit « En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Et nous allons voir l'accomplissement de cette prophétie en Apocalypse chapitre 21. Oui. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avait disparu et la mer n'existerait plus. » Ainsi, la nouvelle création est l'œuvre suprême de Dieu trinitaire. elle est l'aboutissement de la bonne nouvelle. C'est notre finalité. C'est pour ça que nous devons y croire ardemment, nous devons attendre cette réalisation. Donc on confesse en disant Maranatha. Elle est ainsi la vérité absolue à laquelle nous devons croire. Mais beaucoup de chrétiens, au moins, y compris moi-même, si, nous avons tendance à le considérer comme une théorie lointaine. Nous avons du mal à prendre au sérieux. Alors ce matin, je me reviens, vous proposer de réfléchir ensemble sur la nouvelle création. En fait, elle se réalise en 12 étapes. D'abord, par la résurrection du Christ, puis par le retour du Christ. Aujourd'hui, nous allons lire seulement la première partie réalisée déjà en nous. C'est par l'union avec le Christ. Alors, je vous invite à lire avec moi 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 21. De Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 21. Je vais lire. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. Désormais, maintenant, ces 12 adverbes indicateurs du temps au verset 16 nous poussent à chercher un événement historique qui a déjà changé notre regard sur le monde. Désormais et maintenant. Alors, quel est cet événement qui est le repère de l'ancien et le nouveau? Au verset 15, s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est elle qui a radicalement changé le monde. Il y a 2000 ans, Jésus est mort et ressuscité. Par là, il a posé un fondement nouveau, une condition nouvelle, pour que des pécheurs se tournent réellement vers Dieu et qu'ils puissent vivre pour lui. Ainsi, tous les pécheurs ont cette possibilité. Mais tous les êtres humains ne peuvent bénéficier de ces œuvres de manière mécanique et automatique. Ces œuvres ne s'accordent pas sans condition à tous. Chaque individu doit croire en lui. Il doit changer son attitude. Pour connaître la nouveauté en Christ Jésus, il est nécessaire de voir d'abord l'ancienne façon de vivre. Relisons le verset 16. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Ce qui est ancien est vivre de manière purement humaine selon la chair, là où il n'y a pas de place de Dieu. On vit pour soi-même, on se met au centre sa propre vie, on vit en autonomie. On vit sans dépendre de Dieu. Par exemple, si nous poursuivons chaque jour pour nos propres désirs, nous travaillons pour améliorer nos conditions extérieures, pour plaire à nous-mêmes et pour être reconnus par les autres. Notre jugement est basé sur les apparences, non la parole de Dieu. L'ethnie, la richesse, le pouvoir, le titre et le statut social. On poursuit ce qui est charnel et terrestre. On cherche un Dieu à son goût pour compléter son besoin. Dieu devient alors un assistant et un accessoire qui nous aide à réaliser nos propres désirs et préoccupations. Combien de fois nous demandons à Dieu pour compléter nos désirs charnels. C'est la manière principale de vivre dans le monde actuel non régénéré. Nous savons bien par nos propres expériences. Plus nous vivons de cette manière, plus nous provoquons et aggravons de plus en plus l'injustice, la violence, la vanité et le malheur. Or, malheureusement, même au sein de l'Église, il n'est pas difficile de rencontrer des gens qui agissent selon la chair. Je vais vous présenter ces quatre exemples de l'époque de l'apôtre Paul. Saul, devenu plus tard Paul, il a persécuté l'Église, c'est-à-dire des croyants, parce que il avait un gèle charnel. Il voudrait servir par soi-même le Dieu. Alors, il a battu les chrétiens. Ainsi, au sein de l'Église, en dehors de l'Église, il y a beaucoup de gens qui réagissent selon la chair. Et nous pouvons trouver aussi, au sein de l'Église, des gens qui se présentent comme super apôtres. Donc, c'est ils cherchent toujours des puissances surnaturelles au sein de l'Église. Ils cherchent des miracles, des choses extraordinaires, tout en soulignant le lien avec Jérusalem. Et il y a aussi des... Oui, libertins. En fait, c'est... il considère que c'est l'homme, un être humain, est composé en deux parties, le corps et l'âme. Puisque l'âme était sauvée par Jésus-Christ, on peut faire n'importe quoi avec le corps, parce qu'il n'y a pas d'effet sur le corps. Et d'autre partie, c'est légaliste. Il disent que c'est avec le corps qu'on peut gérer l'âme. C'est-à-dire que si en ayant une vie saine et sainte par le corps, on peut garder la sainteté de l'âme. Souvent, on l'appelle ascétisme. Donc, on fait beaucoup de règles dans sa vie pour gérer et garder la sainteté de son âme. À l'époque de l'apôtre Paul, il y a des gens qui agissent au sein de l'Église. Mais aujourd'hui, nous voyons c'est beaucoup de gens qui cherchent une autre chose. Par exemple, c'est ce qui s'attache à libéralisme, à la doctrine de prospérité. Et puis, il y a aussi des gens qui cherchent à l'écuménisme au sens de l'interreligion. Et puis, Surtout si ici en France et dans le continent occidental, il y a des gens qui cherchent pour vivre le déisme moraliste thérapeutique. Déisme moraliste thérapeutique, c'est-à-dire que si Dieu reste toujours loin, donc je reviens vivre en faisant le bien pour racheter son salut. C'est souvent ici en France, nous rencontrons beaucoup de gens qui veulent vivre dans cet esprit. Donc aussi, sans croire en Dieu, ils voudraient vivre leur vie en faisant le bien pour les autres. Tout ce que je viens de vous dire, ce sont des gens qui vivent selon la chair. Alors, au sein de l'Église, comment pouvons-nous vivre pleinement la nouveauté en Christ Jésus? Je vais relire le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Avant tout, nous devons devenir une nouvelle créature, sinon nous ne pouvons pas nous réjouir de la nouveauté sans être nous-mêmes nouveaux. Il faut que nous soyons en Christ. Il faut que nous nous unissions à lui. C'est la nouvelle naissance. Il s'agit du salut. Alors, par rapport à ce salut, l'apôtre Paul utilise un autre thème au verset suivant. La réconciliation avec Dieu. Alors, qu'est-ce que la réconciliation? La réconciliation, désigne la restauration de la relation brisée par le péché. Je répète, la réconciliation, tout à l'heure, c'est Bernard, il a utilisé le mot restauration pour certains. Voilà. La réconciliation, suite à l'événement du pardon, désigne la restauration de la relation brisée par le péché. Elle se fait entre l'offensé et l'offenseur. Alors, entre Dieu saint et l'homme pécheur, qui est offensé et qui est offenseur? Celui qui est en colère contre le péché, c'est Dieu. C'est lui qui est donc l'offensé. C'est Dieu. C'est lui qui est en revanche, après avoir offensé Dieu par le péché, l'offenseur, c'est-à-dire nous, l'offenseur se cache dans l'ombre à cause de la peur. Je vous rappelle l'attitude d'Adam. Adam, après avoir mangé le fruit interdit, il s'est caché au milieu du jardin. Il ne veut pas se montrer devant Dieu parce qu'il a peur. Ainsi, une distance s'est installée entre Dieu offensé et l'homme offenseur. Alors, comment peuvent-ils se retrouver tous les deux dans la réconciliation? Prenons l'exemple de mon couple. Mon épouse, elle est là. Très bizarrement, je suis souvent l'offenseur. Ouais. Alors, moi, c'est je présente directement son pardon à l'offensé, à mon épouse. Et si elle accepte mon pardon, si elle me pardonne, il y a une réconciliation. Dans ces procédures, ce qui est important, tous les deux doivent rencontrer directement. Je dois présenter mon pardon directement à mon épouse et elle me pardonne directement. Dans ce cas, on peut vivre la réconciliation. Mais entre Dieu offensé et l'homme offenseur, une rencontre directe n'est pas du tout possible. Dieu est éternellement saint, l'homme est éternellement pécheur. Dans ces conditions, ils ne peuvent pas se rencontrer directement. Parce que si l'homme offenseur s'approche de Dieu saint offensé, l'homme va mourir. Alors, comment est-il possible qu'un pécheur puisse s'approcher de Dieu saint pour se réconcilier avec? Il faut un médiateur. Un médiateur qui puisse s'approcher à la fois de Dieu saint et de l'homme pécheur. Il faut quelqu'un qui peut satisfaire à cette double nature divine et humaine. L'homme ne peut pas donner aucun médiateur car il est pécheur dès sa naissance. C'est pour cela que Dieu lui-même envoie son propre Fils unique sur la terre. Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu, il vient près de nous afin que nous soyons réconciliés avec Dieu saint par lui seul. Mais ceci ne veut pas dire que Jésus est pécheur comme tous les êtres humains. Non. Au verset 21, il est écrit, « En lui, il n'y a aucun péché. Au contraire, il a porté nos péchés. Il est mort sur la croix à notre place. Dieu ne charge pas l'homme de ses fautes. » Au verset 19. En tant que médiateur entre Dieu saint et l'homme pécheur, Jésus s'est chargé du péché de chacun d'entre nous. Donc, si nous réconcilions avec Dieu par la foi en ce médiateur unique, nous sommes déjà une nouvelle créature. Alors, dans ce cas, nous pouvons nous réjouir de la nouveauté en Christ Jésus. C'est le grand mystère pour les êtres humains, pécheurs. C'est l'essence de l'amour de Dieu trinitaire envers chacun d'entre nous qui est pécheur. La réconciliation est ainsi le moyen par lequel un pécheur devient une nouvelle créature et par lequel il se retrouve dans le nouveau monde. Toute chose est devenue nouvelle pour ceux qui sont réconciliés avec Dieu par Christ. C'est pour cela qu'ils peuvent vous témoigner que le monde qu'ils connaissaient a changé. Il n'est plus là. Avant, ils regardaient le monde avec amertume, mais ils le voient maintenant avec amour et compassion comme le Seigneur. Avant, ils étaient esclaves de la richesse, de la réussite sociale et du plaisir charnel. Maintenant, ils prennent plaisir à mettre en pratique la parole de Dieu. Ainsi, à travers la réconciliation, Dieu fait goûter la nouveauté à ses enfants. Par la réconciliation, Dieu nous donne une grande aspiration à la finalité de la nouvelle création lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous pouvons crier « Maranatha ». La réconciliation est donc le début de la nouvelle création. La réconciliation est le début de la nouvelle création. Or, cette nouvelle création rappelle tout naturellement l'ancienne. À la première création, Dieu a donné trois missions au premier couple humain avant qu'il ne soit devenu pécheur, offenseur. On l'appelle le mandat créationnel, étroitement lié à la bénédiction créationnelle. Je vais vous rappeler ça. Après avoir créé le monde entier, Dieu créateur, il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et à ce moment-là, Dieu a donné trois missions. D'abord, c'est Dieu a donné une mission à Adam et Ève en disant multipliez-vous et reposez-vous et dominez sur la terre. Donc c'était une bénédiction créationnelle. Et deuxième, dans le jardin d'Éden, Dieu a donné à Adam, il faut garder et cultiver le jardin d'Éden. Et troisième mission que l'Éternel a donnée à Adam, c'est tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu manges, tu mourras. Ainsi, Dieu, Créateur, a donné trois missions à Adam et à Ève. Donc, ce mandat créationnel, voilà. Donc, c'est. Ce mandat créationnel, c'est lié à la bénédiction créationnelle. Sont-ils annulés? Puisque Adam et Ève, ils ont commis des péchés, Dieu Créateur a-t-il annulé ces trois bénédictions? Non, il n'a pas annulé. Il n'a pas annulé. Alors, il a renouvelé. Donc, j'aimerais vous inviter à lire attentivement le texte que je vous ai proposé tout à l'heure. À la douzième création, Dieu fait de nous ambassadeurs pour Christ. Mais à la première création, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Image de Dieu, ambassadeur pour Christ, est-ce que vous avez trouvé le point commun? Image de Dieu, c'est-à-dire représente Dieu vis-à-vis du monde. Ambassadeur pour Christ, il est aussi représentant de Dieu vis-à-vis du monde non régional. Donc, image de Dieu est devenue ambassadeur pour Christ. Donc, l'identité en Dieu Créateur est devenue ambassadeur pour Christ. En tant qu'ambassadeur pour Christ, que faisons-nous? Au verset 19, il nous a dit que Dieu nous a donné un ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire plus de réconciliation, plus de salut. Il s'agit donc d'un travail qui agrandit et développe le royaume de Dieu. Donc, c'est la multiplication des nouvelles créatures. Dans l'ambassade d'un pays, il y a plusieurs fonctions. Pareillement à cela, dans le ministère de la réconciliation, il y en a plusieurs ministères. L'apôtre Paul, il a bien développé ses ministères dans son épître aux Éphésiens. Il y a cinq ministères ou quatre ministères, apostoliques, prophétiques, enseignants et évangélistes et pastoral. Ces cinq ministères, Seigneur, il nous a donné afin que nous puissions parvenir à la stature parfaite du Christ Jésus. Donc, Dieu nous a appelés à grandir, à croître. Donc, si nous faisons le ministère de réconciliation, c'est-à-dire nous sommes appelés à grandir, nous sommes appelés à annoncer l'Évangile pour faire entrer des non-chrétiens dans le royaume. Par rapport à cette douzième Dieu créateur a donné une mission à Adam et Ève, disant, garder et cultiver le jardin d'Éden. Donc, service dans le jardin d'Éden, service dans le temple de Dieu, service dans l'Église. Alors, qui peut servir dans l'Église? Ici, si j'aimerais bien, si vous démontrez quelque chose, pour ça, si j'aimerais bien vous inviter à réagir, à répondre à ma question. Ce n'est pas par une parole, c'est par votre geste. Selon la loi de l'Ancien Testament, selon la loi de Moïse, est-ce que les femmes peuvent entrer dans le tabernacle? Alors, je vous demande à toutes les femmes de se lever et mettez-vous contre mur. Selon la loi de l'Ancien Testament, vous n'avez pas le droit de rester dans le tabernacle. Donc, mettez-vous à côté. Ouais. Selon la loi de l'Ancien Testament, toutes les femmes n'ont pas le droit d'entrer dans le tabernacle. Vous pouvez rester parce que si vous avez une difficulté de vous déplacer. Ouais. Selon la même loi, parmi les hommes en dessous de 25 ans, ils n'ont pas le droit d'entrer dans le tabernacle. Donc, parmi les hommes, si vous avez moins de 25 ans, levez-vous et mettez-vous à côté. Et selon la même loi, les hommes plus de 50 ans, ils n'ont pas le droit d'entrer dans le tabernacle parce que ils ne peuvent, leur fonction, c'est fini. Donc, tous les hommes qui ont plus de 50 ans, levez-vous et mettez-vous à côté. Donc, finalement, s'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes, 9 hommes peuvent servir dans le tabernacle. Mais il y a une condition. Il faut que vous soyez issus de la tribu lévite. Donc, si vous n'êtes pas lévite, levez-vous et mettez-vous à côté. Vous êtes lévite? Donc, personne ne peut servir l'Éternel, le Dieu créateur, dans son temple, si nous vivons toujours sous la loi de l'Ancien Testament. Mais grâce à Jésus ressuscité, je pense que nous tous pouvons servir l'Éternel, le Dieu Créateur, dans la même communauté, dans son temple. Amen. Donc, nous sommes tous ambassadeurs pour Christ. Amen. Donc, tous les ambassadeurs pour Christ, vous pouvez reprendre aussi votre place. Alors, avec quoi nous pouvons accomplir le mystère de la réconciliation? À la création, Dieu a donné une parole à Adam en disant, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc, Adam, il faut respecter, il faut croire à la parole du Créateur. Mais ici, l'apôtre Paul, il nous a dit que vous avez reçu une parole de la réconciliation pour accomplir le ministère d'ambassadeur pour Christ. Cette parole de la réconciliation, ce n'est pas une parole qui encourage les gens à résoudre le problème moral. Nous allons lire tous ensemble, parce que c'est très important. Le verset 20 et 21. Soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. La parole de réconciliation que l'apôtre Paul nous a donnée, c'est une invitation à la repentance. D'après cette parole, nous annonçons que vous êtes pécheurs. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Votre destination, c'est l'enfer. Seulement par Christ Jésus, vous pouvez réconcilier avec Dieu. Vous pouvez vivre la nouveauté. Vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Vous pouvez vivre la vie éternelle. C'est la parole de la réconciliation. Ce n'est pas une parole qui console les autres. Donc, cette parole ne doit pas être mélangée avec la parole humaine. Cette parole ne doit pas être mélangée avec la philosophie. Cette parole ne doit pas être mélangée avec notre propre conviction humaine. Ça doit être une parole prononcée, annoncée directement à l'aide de l'Esprit Saint. Parce que c'est Jésus qui est mort à notre place. C'est Jésus qui est mort pour nous. C'est Jésus qui est mort pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Donc, chaque jour, il faut manger cette nourriture. Chaque jour, il faut méditer cette parole. C'est pour que nous soyons sanctifiés, pour que nous puissions grandir progressivement. C'est aussi pour faire inviter les gens, pour inviter les non-chrétiens à vivre cette vie nouvelle. Donc, c'est en Christ Jésus, le monde créationnel en premier Adam est devenu. Oui, le monde missionnel en dernier Adam. Quand Adam et Ève ils ont reçu la bénédiction, le monde créationnel. Ils sont tombés dans le péché. Donc, ils ont été expulsés du jardin d'Éden. Donc, ils vivaient dans la peur. Mais nous, en tant qu'ambassadeurs pour Christ, nous ne vivons plus dans la peur de la perte du salut. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a empreints. C'est Jésus lui-même qui vit en nous. Donc, nous pouvons accomplir le mandat missionnel en dernier Adam sans avoir peur de tomber dans la mort, parce que nous sommes déjà ressuscités avec Christ. Cette vie nouvelle, cette nouveauté, c'est ce que nous devons vivre chaque jour en Christ Jésus. Ici en France, pour devenir ambassadeur pour la France, il faut passer beaucoup d'examens. Je ne sais pas, c'est plus le bac 5 ou bien 6, je ne sais pas. Donc, il faut bien travailler. Mais pour devenir ambassadeur pour Christ, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Rien. Nous n'avons rien fait. C'est Dieu qui a préparé tout. C'est Dieu, c'est lui qui est mort à notre place. C'est lui qui a porté nos péchés. Nous sommes donc devenus gratuitement ambassadeurs pour Christ. Alors, en tant qu'ambassadeurs pour Christ, que devons-nous faire aujourd'hui? Ambassadeur ne vit pas pour soi. Ambassadeur vit pour son roi, pour son président. Donc, vivons-nous en tant qu'ambassadeur pour Christ la bonne nouvelle par laquelle nous sommes sauvés, par laquelle Dieu va sauver à travers chacun d'entre nous. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci parce que tu nous as réconciliés avec Dieu Père Saint par toi seul, parce que c'est toi qui es monté sur la croix à notre place, c'est toi qui nous as donné l'Esprit pour que nous puissions vivre avec toi. Seigneur, en tant qu'ambassadeur pour Christ, nous voulons vraiment, Seigneur, vivre cette nouveauté et nous voulons annoncer cette nouvelle, bonne nouvelle. Parce que tu veux toujours sauver des gens que tu as déjà préparés. C'est pour ça que, Seigneur, tu nous as mis dans la même communauté pour travailler ensemble. Donc, Seigneur, aide-nous à vivre cette nouveauté. Aide-nous à annoncer cette bonne nouvelle. Donne-nous, Seigneur, nous te prions. Amen.